C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Aujourd'hui, je vous invite dans un monde médiéval fantastique, celui d'Oltré, le nouveau jeu d'Antoine Boza édité par Studio H. Alors Oltré est un jeu coopératif et narratif où vous aurez un rôle de patrouilleur pour aider les habitants d'une satrapie, une province administrative. Vous devrez accomplir des quêtes, des missions et sécuriser le fortin, mais ce n'est pas tout. Il faudra suivre une histoire, des chroniques, tout au long de la partie divisée en plusieurs chapitres. On rentre clairement dans le jeu, il faudra régler des problèmes et des événements qui arrivent, on discute ensemble, parfois il faudra se battre contre des créatures. Les patrouilleurs vont vivre des péripéties et le fortin devra être sauvé aussi bien son prestige que sa défense. Et c'est seulement quand la dernière page du livre de la chronique se refermera, si les missions sont accomplies, que la sécurité des habitants sera préservée. Alors si jamais le prestige ou la défense atteint un zéro, la quête est perdue et il faudra recommencer. Alors avant de vous expliquer comment on joue à Oltré, il faut noter la qualité du matériel et les illustrations signées Vincent Dutré. Deux plateaux, le principal où l'on retrouvera nos patrouilleurs et le fortin entouré des différentes régions de la satrapie. Les régions sont numérotées de 1 à 8, chacune contient un emplacement pour les cartes péripéties et un emplacement communauté. Alors en général dans la communauté on pourra gagner des ressources mais aussi des points de vie, du prestige et de la défense. Au milieu du plateau, le fortin. Un endroit sûr pour vos patrouilleurs qu'il faudra rénover. Mais pour le protéger, il faudra construire des tours. Dans le fortin, vous allez stocker toutes les ressources. Ils appartiennent aussi bien à Bérénice qu'à Gaspard. Ce sont deux des huit personnages que vous pourrez jouer. Chaque patrouilleur a un métier, soldat, artisan, érudite ou voyageur. En plus, les patrouilleurs ont des capacités et des points de vie représentés par un cœur. Attention, vous avez un seuil de fatigue à ne pas dépasser, vous allez comprendre pourquoi. Les patrouilleurs devront solliciter des communautés pour résoudre des scénarios et remplir leurs missions. Mais c'est en avançant dans l'histoire que l'on saura comment gagner ensemble. Mais alors comment on joue ? Eh bien à tour de rôle, vous allez lancer le dé adversité et avancer sur un plateau annexe, votre pion entre 0 et 2 cases, pour faire avancer l'histoire. C'est un genre de boucle, hein. On prend soit une carte péripétie, soit un problème, soit on révèle un événement, soit on tourne la page du livre. Et on applique ce qui est indiqué. Alors si jamais le pion se trouve dans les péripéties, on prend un dé 8 faces pour savoir dans quelle région elle va atterrir. Attention, il faut que les patrouilleurs résolvent les péripéties, car s'il y en a 4 par région, eh bien, vous allez perdre du prestige. Résolver des péripéties font partie des missions. Les problèmes seront localisés comme les péripéties avec le dé. Et tant que les problèmes sont là, eh bien, ça bloque les avantages de la communauté. Vous pourriez manquer rapidement de ressources. Enfin, les événements pourront être positifs, mais aussi négatifs. Chaque joueur aura deux actions possibles à faire, différentes. Il pourra se déplacer d'une région adjacente, solliciter la communauté pour récupérer le bonus comme une ressource, s'occuper d'une péripétie. Et comme vous êtes dans une histoire, c'est un autre joueur qui vous la lira. Il faudra faire un choix. Souvent, vous allez jeter des dés de connaissances, de métiers. Si c'est une réussite, c'est parfait. Mais il y a des réussites conditionnées. Il faudra donner un point de vie et ne pas être sous le seuil de fatigue. Et enfin, il y a les échecs. Là, je ne vous fais pas de dessin. Il arrive parfois que l'on ne soit pas satisfait de son lancer de dés. Dans ce cas, on peut donner un morceau de pain pour les relancer. Selon les résultats des dés, vous pourrez obtenir plus de prestige, de défense entre autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que la péripétie va disparaître. Alors parmi les actions possibles, c'est de protéger les régions grâce à la construction d'une tour du fortin. Il suffit de payer les ressources pour pouvoir la construire. Un patrouilleur peut se reposer et gagner ainsi un point de vie, une provision, vous savez, le petit morceau de pain. On peut également construire un bâtiment ou le réparer. 10 actions possibles, mais c'est pas tout. Dans Oltré, d'autres actions bonus pourront apparaître. Alors 6 chroniques avec des niveaux de difficulté et des missions à résoudre. Chaque personnage a une capacité spéciale. Conrad, par exemple, pourra faire 2 actions identiques. En jouant à Oltré, on se laisse transporter par l'histoire et le rôle de son personnage. On se prend au jeu, on essaie de régler les problèmes et les événements qui surviennent, de lutter contre les créatures rencontrées en discutant ensemble comme si on y était. C'est un pari largement réussi pour ce jeu. Voilà une nouvelle pépite de Studio H qui se joue très très bien en famille. On n'est pas sur un jeu expert. Il ne vous reste plus qu'à communiquer et coopérer entre vous pour sauver l'Empire. Les portes vous sont ouvertes. On en parle d'ici quelques minutes avec Thibaut de Studio H.
C'est ludique, l'invité de la semaine.
Bon anniversaire Thibaut.
Merci.
Ça va ?
Bravo.
Alors on n'avait pas prévu que ça soit ton anniversaire pour parler d'Oltré, mais finalement ça tombe bien.
Eh ben il se trouve que oui.
Alors ça te fait quel âge ?
Ça me fait 27.
Oh là là, t'es jeune. Oh t'es jeune. Oh bref, allez, on va passer tout de suite à la chronique. On va parler donc d'Oltré. On va continuer cette découverte de ce jeu coopératif et narratif. Alors, on va déjà revenir sur Antoine Boza. Comment ça s'est passé? Comment il vous a proposé ce jeu?
Et en fait, le jeu est né d'une sorte de coup de foudre qu'il a eu lui-même pour le jeu de rôle, en fait.
Ouais.
Oltré est issu d'un jeu de rôle français paru chez John Doe Edition. Antoine lui-même est un grand rôliste. Et en fait, il a vu aussi tout de suite une transposition possible en mécanique de jeu de société, et notamment parce que le jeu en lui-même introduisait déjà des cartes, des ressources. Donc il y avait déjà dans le jeu de rôle lui-même un petit côté hybride.
Ouais.
Et ça l'a beaucoup inspiré pour proposer. C'est vrai que c'est quand même un grand spécialiste des jeux coopératifs, Antoine. Et là, il voyait la possibilité de faire un jeu coopératif avec une dimension narrative un peu unique, inspirée du jeu de rôle, avec vraiment comme grande force la possibilité pour les joueurs de se raconter des histoires,
ouais,
comme dans un jeu de rôle, quoi.
Vous avez tout de suite adhéré à ce projet Oltré. Depuis combien de temps Studio H travaille dessus?
C'est quasiment un projet qui en fait que nous développons quasiment depuis le début du studio.
Ouais.
C'est vrai que ça fait, donc c'est un jeu qui a beaucoup beaucoup d'illustrations uniques sur lesquelles on a dû travailler. C'est un jeu qui va qui bien sûr va donner lieu à une gamme, donc il y a quand même certains choix éditoriaux qu'on fait dès le début qui vont avoir des conséquences pour l'avenir. Mmh. Donc ça fait bien deux ans, c'est-à-dire toute l'histoire de Studio H qu'on le fait avancer petit à petit, et on est très content qu'il arrive.
Je me rappelle au tout début quand on avait discuté, tu m'avais déjà parlé d'Oltré.
Oui, tout à fait. Oui, non, mais même moi, là, pour la stricte communication, ça fait très longtemps qu'on le montre sous diverses formes, sous des prototypes, sous des formes numériques. C'était une belle aventure. Et puis bon, le jeu en est digne, mais c'est sûr que ça fait longtemps qu'on le travaille et qu'on en parle.
Alors, il y a un beau travail d'édition, hein, aussi bien au niveau du matériel que de la boîte, avec ces petits coffres. Vous vouliez sublimer le jeu?
Tout à fait. Il y avait des opportunités. Ça va être vraiment cette première boîte qui va être au centre de la gamme, et qui donc permettra aux joueurs d'y ranger leurs extensions. C'est un matériel qui va servir, on l'espère, de nombreuses années aux joueurs. C'est en plus un jeu sur lequel qui a beaucoup inspiré l'équipe éditorialement également. Donc c'était d'où l'idée de faire ces petits meeples enluminés, de faire cette cale un peu unique qui contient le trésor des patrouilleurs. Mmh. Un peu. Donc effectivement on a pu se faire plaisir, et on veut aussi faire plaisir aux joueurs qui suivront le jeu pendant de nombreuses années.
Alors la partie écriture est importante, hein, dans Oltré. C'est pas la spécialité, on va dire, d'Antoine Boza. Est-ce que vous avez revu beaucoup de choses?
Antoine Boza est co-auteur avec John Grumpf, qui est l'auteur, ouais, lui-même du jeu de rôle, et donc c'est vraiment un travail de collaboration entre eux sur la stricte écriture des péripéties, des chroniques en elles-mêmes. Il y a également pour chacune des chroniques souvent des petites inspirations que Antoine ou John ont pu avoir avec des amis, hein. Il y a même pour l'anecdote certaines chroniques qui sont en fait issues de parties de jeux de rôle masterisées par John Grumpf lui-même, et qui ont donné lieu à des aventures fantasques, et qui sont devenues donc des chroniques d'Oltré. On a quand même bien regardé de près chacune des histoires et celle qui arrive.
Alors, on est d'accord, hein, c'est pas un jeu de rôle, c'est un jeu de plateau adapté de ce jeu de rôle de John Grumpf. Est-ce que John Grumpf a donné carte blanche à Antoine Boza?
Je crois qu'en fait il se trouve que Oltré lui-même est un jeu en fait dont l'univers est assez, en fait c'est donc un jeu qui est relativement jeune, enfin qui a une édition, et surtout en fait il y a la question, c'est un jeu qui est très ouvert, en fait c'est un jeu qui se veut un petit peu dans la philosophie d'être une sorte de boîte à outils. On a quelque chose d'assez bac à sable, d'assez feel good même, donc en fait il y a quand même pas mal de latitude pour développer l'univers dans des directions, toutes les directions sont bonnes. C'est vraiment un jeu qui va miser, qui va tirer sa force de la liberté qu'ont les joueurs de euh, construire une histoire avec le maître du jeu. C'est vraiment de la narration collective. Donc de ce point de vue-là, c'est pas un monde dont le lore est extrêmement figé ou rigide.
Ouais.
Voilà, on peut tout à fait découvrir de nouveaux peuples. On peut tout à fait introduire tel ou tel élément et ça ne constitue pas entre guillemets de violation de la mythologie originelle d'Oltré, quoi. Donc oui, de fait, oui, il y a beaucoup de liberté pour écrire les chroniques que l'on souhaite.
Les ambiances, hein, sont variées aussi au niveau des illustrations quand on change d'aventure, par exemple. Est-ce que c'est ce que vous aviez demandé à Vincent Dutré?
En fait, il y a même, en fait, c'est même, ça va un peu plus loin que ça, puisqu'en fait, il y a sur certaines chroniques des artistes invités, en fait.
Ouais.
Invités, du coup, c'est des artistes qui, en général, sont plutôt issus du monde de la bande dessinée et qui ont illustré certaines chroniques. Donc Vincent en a illustré la moitié lui-même et l'autre moitié c'est pour des artistes et c'est pour des artistes invités, et donc c'est quelque chose qu'on va essayer de reproduire. Et de même qu'il y a des certains auteurs invités qui peuvent inspirer les chroniques, d'avoir des artistes qui vont apporter leur patte aux illustrations de certaines aventures.
Alors la narration et la mécanique, hein, sont vraiment au centre du jeu. Mais on a vraiment un jeu, enfin, c'est un jeu de gestion de ressources quand même.
Eh ben quand même, oui, tout à fait. Oui, en fait, on retrouve quand même un côté relativement exigeant des jeux d'Antoine Boza. Donc il y a quand même, l'action. D'ailleurs, c'est une action de plus ou une action de moins. Je fais en général la différence. J'imagine que tu as joué à quelques chroniques. On sent toujours qu'on gagne ou qu'on perde.
C'est
on
ça.
Se dit toujours. Ça s'est joué à un jet de dés. Moi, j'avais pu faire ça avant. Et donc, effectivement, c'est quand même un jeu où finalement pour la stricte victoire de l'aventure, faut quand même pas se disperser. Faut bien réfléchir à l'impact de chacune des actions de chaque patrouilleur pour toujours faire des choses pertinentes qui permettent d'avancer dans le scénario. Parce que voilà, on a très vite toutes sortes de problèmes à gérer, et donc il faut être capable de prioriser, de comprendre ce qui va vraiment être important pour en vue de l'histoire qu'on est en train de vivre et du dénouement du scénario, et de se concentrer. Donc tout à fait, la gestion de ressources en fait partie. Il faut bien envoyer les bonnes personnes en collecter, bâtir les bâtiments qui vont vraiment nous aider, et effectivement pas trop vivre se disperser
ouais, on a
la question finale, quoi.
Les ressources, hein, qu'on récupère, ils sont partagés, hein, par tous les joueurs. On est sur du coopératif. Du coup, ça veut dire qu'on incarne chacun un patrouilleur, chacun a ses spécialités. Donc il n'y a pas vraiment d'effet de leader, hein, dans le jeu.
Oui, alors, et en plus, alors, donc, effectivement, il y a donc, effectivement, les pouvoirs des patrouilleurs sont quand même assez puissants, ce qui permet vraiment à chacun d'avoir, vraiment, de pouvoir prendre un rôle dans l'équipe pour faire avancer l'histoire. Et en plus, en fait, comme, c'est vrai que quand même la narration est au centre du jeu. En fait, il se passe toujours quelque chose. On est toujours en train de faire quelque chose, même si on est juste en train d'aller vivre une péripétie. On est en train de vivre quand même une petite historiette, donc sur laquelle on va pouvoir improviser, dont on va pouvoir se souvenir. Et on va pouvoir incarner son personnage, hein, puisque les péripéties sont vécues sans connaître les conséquences des différents choix. Donc effectivement une des parades aussi à l'effet leader, c'est ce côté narratif qui fait que qu'on est quand même, son personnage est toujours en train de vivre quand même quelque chose. On est toujours impliqué par la narration dans l'aventure.
Alors j'avance le marqueur adversité, il se passe quelque chose, je fais mes deux actions. C'est vraiment un jeu accessible, familial. Alors pas si simple que ça, mais c'est quand même familial au niveau des actions.
Et ben tout à fait, oui, c'est en fait effectivement, c'est en fait ça s'envisage tout à fait d'y jouer avec des enfants. Voilà, il faut tenir un petit peu l'état du plateau. Effectivement, pour la stricte victoire, faut quand même essayer de se concentrer sur les priorités de chaque scénario. Mais effectivement, j'ai beaucoup de gens qui me font le retour que c'est un jeu que les enfants réclament. Ça peut être un très bon premier coopératif, ça peut être un très bon premier narratif. Il a quand même effectivement pas mal d'atouts pour plaire à un large public.
Le niveau de difficulté varie aussi ?
Tout à fait, oui, tout à fait. On peut, en fait, c'est très modulaire. Alors, ça laisse aller déjà avec, effectivement, les ordres de mission que l'on peut combiner librement avec les chroniques. Et ça le deviendra encore plus au fur et à mesure du développement de la gamme, puisque, effectivement, à terme, rien que l'année prochaine, on aura quand même 10 chroniques différentes, combinables avec une quinzaine d'ordres de mission. Il y aura alors 6 decks de péripéties. Bien sûr, il y aura des nouveaux patrouilleurs qui arriveront, même des modules. Donc, on pourra.
Ah oui,
vraiment,
donc c'est vraiment une gamme complète. Hein.
Tout à fait, oui, tout à fait. Donc à terme, on va retrouver le côté bac à sable finalement qui était au centre du jeu de rôle, avec un jeu. Voilà, on peut jouer l'aventure que l'on souhaite, avec la durée de jeu que l'on souhaite, la difficulté que l'on souhaite, l'immersion que l'on souhaite. Donc voilà, à terme, il y aura. On espère, on rêve d'une communauté qui pourra écrire ses propres chroniques. Donc il y aura vraiment la possibilité pour les fans de s'emparer du jeu et d'y jouer. Voilà, un petit peu comme ils l'aiment, quoi.
Alors il y a plusieurs chroniques, hein, ou scénarios. En revanche, on peut rejouer la même, on n'aura pas forcément les mêmes choses à faire.
Oui, en fait, y a effectivement dans les facteurs de rejouabilité. Alors d'abord, moi je dis souvent que chaque chronique, on peut la jouer vraiment au strict minimum 3 fois. Donc la toute première fois, c'est vraiment découvrir l'histoire, c'est le plaisir de tourner les pages, qu'est-ce qui va nous arriver, tu penses qu'il va nous trahir, c'est un signe de quoi, tu penses qu'on a raison de lui faire confiance. Bon, on découvre un peu l'histoire. On découvre un petit peu l'histoire. Il y a ce plaisir-là de tourner les pages et de voir ce qui se passe. Il faudra vraiment bien essayer de lire la narration pour essayer de gagner, se concentrer sur l'ordre de mission. Mais en supposant que la victoire nous échappe la première fois, on peut y rejouer une deuxième fois, ce coup-ci en tentant d'anticiper. On se dit, il y a ça. On peut choisir des patrouilleurs. Peut-être un peu avec des pouvoirs qui sont particulièrement pertinents dans le contexte de cette chronique. Donc on peut jouer un peu plus la gagne. Et une fois qu'on a, on gagne en paire encore. Et en fait, pour la troisième fois qu'on le rejoue, on peut choisir d'ajuster un peu la difficulté selon notre expérience des premières parties, changer un peu les péripéties, Là, on peut jouer vraiment avec la modularité à partir peut-être de la troisième partie en se disant, maintenant qu'on sait comment gagner, on peut monter la difficulté. Ou alors c'était quand même, on a du mal, c'était quand même trop difficile, baissons un peu la difficulté, changeons les patrouilleurs. Donc il y a plein de... Ouais. Alors effectivement, il y a des embranchements. Effectivement, tu faisais aussi référence à des embranchements narratifs. Ouais. C'est vrai que parfois, sur la fin des chroniques, il y a la possibilité d'aller dans une direction, d'aller dans l'autre. Il se passe ça. Donc si on a envie de voir la fin alternative ou explorer une autre option, on peut également le faire. Donc tout ça pour dire que, effectivement, si on se contente de trois parties de chaque chronique, ça en fait 18.
Ouais,
plus
c'est pas
celle
mal.
De là, on en offre une également en promotion pour la sortie du jeu. Il y en a des nouvelles qui arrivent, donc on espère qu'il y aura du jeu dans cette boîte.
On apprend de toute façon de ces échecs, parce que au début on oublie certaines choses, par exemple la construction du fortin est primordiale avec les tours notamment.
Et ça, c'est effectivement un élément qui est repris du jeu de rôle. Les patrouilleurs, ont cette base d'opération physique, le fortin, qui donc représente un petit peu les différentes bases d'opérations que le corps des patrouilleurs avait bâties dans la satrapie pour gouverner l'Empire. Et donc les patrouilleurs se retrouvent plus ou moins toujours dans cette forteresse à réparer. Il y a un peu l'idée quand même dans Ultré, même si l'univers est très et pas très sombre, il y a quand même l'idée d'une sorte de gloire perdue à restaurer, ouais. D'espoir à faire renaître dans un empire qui physiquement s'est effondré et où le chaos s'installe. Et donc il y a ce fortin dont il va falloir réparer les murs, rebâtir les tours, rééquiper pour avancer dans la quête. Donc c'est ce point central.
Il nous reste 2 minutes, Thibaut. Ultré donc sera un jeu vraiment centre de la gamme de Studio H.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre prévu pour l'année prochaine?
D'autres jeux Studio H?
Oui.
Et alors effectivement, en fait, c'est vrai que ça va être en début 2022, on va plutôt développer nos gammes, donc avec pas mal finalement d'extensions qui arrivent sur les premiers mois de l'année prochaine. Donc on aura par exemple Suspect.
Suspect, ouais.
Suspect, qui va avoir une deuxième boîte arrivée, le retour de Claire Harper, qu'on va retrouver à différents moments de sa vie. Donc jeune fille dans son collège. Autour de 40 ans aux Jeux Olympiques de Londres et à 60 ans alors qu'elle écrit ses mémoires au bord du lac de Constance en Suisse.
D'accord.
3 nouvelles enquêtes plutôt innovantes, écrites avec toujours donc Guillaume Montiage et Manuel Rozoy.
Ouais.
Donc voilà, on espère que cette boîte plaira aussi aux fans du jeu. Donc le retour de la détective
Claire
des premières boîtes, mais avec un peu plus de avec un peu de quelques innovations à chaque moment de sa vie où elle se retrouvera enquêtée.
Très bien.
On a également, première fois que je le révèle, je crois, la suite d'Oriflamme.
Ah, la suite d'Oriflamme. Un troisième, alors.
Une troisième boîte, ouais, qui vient développer la gamme avec un nouveau, une extension standalone, jouable en combinaison avec les autres ou indépendamment. Et qui devrait introduire une nouvelle dynamique un peu de politique entre les joueurs, avec des nouveaux pouvoirs qui vont inviter les joueurs à se choisir des alliés. Bon, évidemment, pour sans doute les trahir à un moment, quoi.
Très bien, merci beaucoup Thibaut d'avoir été sur Millennium. Et encore, très bon anniversaire.
Merci Matt. Merci
à beaucoup. Bientôt, salut Thibaut.
À bientôt.